Le guide dans l'année liturgique, Dom Pius Parche. Mercredi de la quatrième semaine de carême. Station à Saint-Paul. Trois trésors de l'Église. Le Christ donne aux catéchumènes et aux fidèles l'illumination. Il leur ouvre les oreilles. C'est la tradition du Notre Père, de la profession de foi et des quatre évangiles. Nous chantons au lever et au coucher du soleil les antiennes suivantes. À Benedictus, Maître, quelle faute a commise cet homme pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais les œuvres de Dieu doivent se manifester en lui. Et à Magnificat, Cet homme qui s'appelle Jésus a fait de la boue avec sa salive, et il en a frotté mes yeux et maintenant je vois. Nous nous considérons aujourd'hui comme des aveugles et des mendiants que le Christ illumine. Cette journée était très importante dans la vie de l'Église ancienne. C'était le plus important scrutin, le troisième, pour l'ouverture des oreilles. Les catéchumènes ont aujourd'hui l'ouïe spirituelle ouverte. Ils reçoivent les joyaux précieux de l'Église, la profession de foi, le Notre Père, les quatre évangiles. Sous la figure de l'illumination de l'aveugle, ils reçoivent un avant-goût de la grâce pascale. La station. L'importance de la journée se manifeste déjà dans l'église de station. On conduit aujourd'hui les catéchumènes vers leur père spirituel, l'apôtre des nations, saint Paul, qui dans sa conversion sur le chemin de Damas est le symbole des catéchumènes. La basilique de saint Paul compte parmi les sanctuaires les plus vénérables de Rome. Cette église a été construite sur le tombeau de l'apôtre. L'empereur Constantin fit construire au-dessus de la tombe une petite église. En 386, on construisit à la place de cette petite église une grande basilique richement ornée. C'était une des plus grandes parmi les antiques basiliques chrétiennes de Rome. Elle avait 6 nefs et un imposant transept. Les nefs étaient séparées par 4 rangs de colonnes. C'étaient les plus belles et les plus grandes colonnes léguées par l'Antiquité romaine. C'est de l'époque de Léon Ier, 440-461, qui restaura l'église, que date la grande mosaïque de l'Arc de Triomphe qui fut offerte par l'impératrice Galla Placida et qui subsiste encore aujourd'hui. On y voit le Christ avec les 24 vieillards de l'Apocalypse. Dans les nuages se trouvent les symboles des 4 évangélistes. La grande mosaïque de l'abside fut exécutée entre 1216 et 1227. Elle représente le Christ et les apôtres. Elle aussi subsiste encore. Cette magnifique église fut la proie des flammes en 1823. On ne put sauver que le frontispice, l'arc de triomphe et l'abside. Grâce à la générosité de quelques papes, elle fut restaurée sur le même plan. C'est de nouveau une des plus riches églises de Rome, mais elle ne peut pas remplacer l'ancienne. Un coup d'œil sur la mosaïque de l'Arc de Triomphe nous reporte à l'époque florissante du catéchuménat. La messe. Cum sanctificatus. L'office de station aujourd'hui était entièrement consacré aux candidats au baptême. Il comprenait de nombreuses cérémonies, dont une partie est encore en usage dans l'administration du baptême. L'office commençait par l'appel nominal des élus que faisaient les acolytes. Les hommes se plaçaient à droite, les femmes à gauche. Le prêtre leur mettait du sel béni dans la bouche. C'était le symbole de la divine sagesse qu'ils ne tarderaient pas à recevoir. Ensuite, ils quittaient l'église et attendaient à la porte jusqu'à ce qu'on les appelât. Pendant ce temps commençait la messe, une des plus belles du carême. Le chœur chante l'introïte, le Christ lui-même s'avance devant les catéchumènes, quand j'aurai été sanctifié, c'est-à-dire glorifié, parmi vous, je vous rassemblerai de tous les pays, et je verserai sur vous de l'eau pure, et je vous purifierai de tous les péchés, et je vous donnerai un esprit nouveau. » Le psaume 33 est la réponse des catéchumènes. C'est l'action de grâce pour la délivrance. L'évêque récite une oraison pour les catéchumènes. « Faites, nous vous en prions, Seigneur, que nos élus s'approchent dignement et sagement de la confession de votre gloire, afin que par votre majesté ils puissent être rétablis dans la dignité primitive qu'ils ont perdue par le péché originel. » Ensuite, les catéchumènes sont rappelés et se placent en ordre. Sur l'invitation du diacre, ils s'agenouillent et se relèvent. Ensuite, les parrains sont invités à tracer une croix sur le front des futurs baptisés et les acolytes leur imposent les mains. Cette cérémonie se renouvelle 3 fois, puis on continue la messe. On lit 2 leçons. C'est un signe de l'antiquité de la messe. La première leçon, Ézéchiel promet aux Juifs le retour dans la terre promise et le pardon de Dieu. Cela s'applique aux catéchumènes, mais aussi à nous. Nous devons recevoir à nouveau un cœur neuf et un nouvel esprit. Pâques est l'accomplissement de cette promesse. Le premier graduel, notre Mère l'Église nous invite, « Venez et écoutez-moi, mes enfants, laissez-vous éclairer. » Deuxième leçon, « Lavez-vous et vous serez purs. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate et la pourpre, ils seront blancs comme la neige et la laine. » Le deuxième graduel est un écho de la leçon. Heureux le peuple que Dieu a choisi comme héritage. Avant le chant de l'Évangile, 4 diacres sont sortis du secrétarium, la sacristie, avec 4 livres des évangiles, accompagnés de porte-chandeliers et de turiféraires, et se sont placés aux 4 coins de l'autel. Pendant ce temps, la Scola chante « Par la voix du Seigneur, les cieux ont été affermis », ce qui s'applique à l'ouverture de l'évangile qui va suivre. L'évêque adresse alors aux catéchumènes une exhortation dans laquelle il explique le but, le contenu et le nombre des évangiles. Ensuite, le diacre annonce le début de l'évangile de saint Matthieu, puis l'évêque explique le symbole de cet évangéliste. On fait la même chose pour chaque évangéliste. La cérémonie s'appelait « ouverture des oreilles » et comportait les mêmes rites que ceux que nous trouvons aujourd'hui dans les cérémonies du baptême. Le prêtre touche les oreilles du futur baptisé et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Cela signifie que désormais, les sens spirituels s'ouvrent pour entendre la parole de Dieu. On chante ensuite l'évangile de la messe, qui traite de la guérison de l'aveugle-né. Comme cet évangile s'adapte bien à la cérémonie précédente, l'aveugle-né est le symbole du catéchumène qui reçoit par le baptême la lumière céleste et en même temps doit entrer dans le combat contre les ténèbres. Les catéchumènes tombent, avec l'aveugle guéri, au pied du Seigneur et récitent le credo joyeux et reconnaissant. Immédiatement après la lecture de l'Évangile, a lieu l'annonce de la profession de foi et du Notre Père. L'acolyte pose la main sur la tête du catéchumène, tout en chantant, d'abord en grec puis en latin, la profession de foi. Ensuite, l'évêque, dans une exhortation, explique ce résumé de notre foi. Aussitôt après, on communique aux catéchumènes le Notre Père, en faisant suivre chaque demande d'une courte explication. Enfin, les catéchumènes sont congédiés. Après le renvoi des catéchumènes, on célèbre la messe proprement dite. Les fidèles chantent à l'offertoire un cantique d'action de grâce pour leur rédemption. Le bonheur qui vient d'être promis aux catéchumènes, ils l'ont déjà reçu. Le psaume 65 est un chant pascal. Dans l'Antiquité, on y ajoutait même l'Alléluia. Le Christ, dans le sacrifice, est lumière et vie. Voilà ce que les fidèles confessent avec reconnaissance. Et nous. La journée d'aujourd'hui présente à l'âme qui veut faire revivre la grâce du baptême, aliment et lumière. Nous accompagnons en esprit les catéchumènes d'il y a environ 1500 ans. Nous entrons dans la basilique de Saint-Paul. Il est notre Père spirituel à nous aussi. Presque tous les dimanches, sa voix nous exhorte et nous instruit. Renouvelons sur son tombeau la grâce de notre baptême. Le sens de ce renouvellement nous est expliqué dans les lectures. Je mettrai en vous un nouveau cœur et un nouvel esprit. J'enlèverai de votre poitrine votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'allais, je me lavais et maintenant je vois. Il s'agit donc d'une nouvelle vie et d'une nouvelle créature. Nous recevons aujourd'hui de la main de l'Église trois cadeaux précieux. L'Évangile, la profession de foi et le Notre Père. Baisons le livre des Évangiles. L'Évangile remplace pour nous le Christ. Dans l'Évangile, la liturgie voit et honore le Christ. Selon l'esprit de la liturgie, nous devons vivre de la vie du Seigneur. Sur la terre, le Christ a vécu pour nous aussi. Ce qu'il fit alors aux malades, ce qu'il leur dit, il le fait et il le dit pour nous. Quel prix n'a pas l'Évangile ? Il nous manifeste les sentiments, les actions et les paroles du Christ. Chaque parole de la profession de foi a été scellée du sang des martyrs. Au Moyen-Âge, on la récitait aux mourants. Le Notre Père est la seule prière que nous ait enseignée le Seigneur. Récitons-le avec respect. Il occupe la plus belle place à la messe. Dans l'Antiquité, on le considérait comme un sacrement. Psaume 20. Chant d'action de grâce pour la victoire. Aujourd'hui, non plus, il n'est pas possible de remarquer dans le missel que ce psaume était chanté pendant la communion. Le psaume 19 et le psaume 20 forment un tout. Le premier est une prière avant le combat, le second est une action de grâce pour la victoire. Le psaume se divise en deux strophes. Premièrement, prière d'action de grâce pour la victoire du roi, la troisième personne. Dieu a exaucé sa prière. Un long et glorieux règne est réservé. Invocation qu'il en soit ainsi. Deuxièmement, souhait sous la forme d'une promesse prophétique à la deuxième personne. Le roi sera victorieux de tous ses ennemis, invocation, et qu'il en soit ainsi. Seigneur, le roi se réjouit de votre force, et votre secours le remplit d'allégresse. Vous lui avez donné ce que son cœur désirait. Vous n'avez pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Vous l'avez prévenu de bénédictions abondantes. Vous avez mis sur sa tête une couronne ornée de pierres précieuses. Il vous demandait la vie, et vous la lui avez donnée. Vous lui avez donné de longs jours à jamais et à perpétuité. Sa gloire est grande grâce à votre secours. Vous mettez sur lui splendeur et magnificence. Vous l'avez rendu à jamais un objet de bénédiction. Vous l'avez réjoui de votre regard favorable. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, et le Très-Haut ne le laisse pas chanceler. Votre main atteindra tous les ennemis, votre droite anéantira tous ceux qui vous haïssent. Vous les rendrez comme une fournaise ardente au jour de votre courroux. Dans votre colère, vous les détruirez, Seigneur. Vous ferez disparaître de la terre leur postérité et leur race d'entre les enfants des hommes. Ils ont préparé pour vous la ruine, ils ont conçu des desseins pervers, mais ils seront impuissants. Car vous les mettrez en fuite, et de vos traits, vous les viserez au visage. Levez-vous, Seigneur, dans votre force, nous voulons chanter et célébrer votre puissance. Il est facile de faire l'application du psaume. Pour nous, le Christ est vainqueur. Sous sa direction et en lui, nous remportons nous aussi la victoire. Avec quelle joie les fidèles devraient chanter ce psaume aujourd'hui, dans l'attente de la victoire spirituelle des catéchumènes.